France Musique.
Le casque et l'enclume. Bonjour à tous et bienvenue dans le casque et l'enclume, votre séance critique du vendredi sur France Musique. Mes invités aujourd'hui, les deux piliers, vous les connaissez, c'est Richard Marté d'Opéra Magazine et Christian Merlin du Figaro. Est venu nous rejoindre aujourd'hui Roselyne Bachelot de D8. Je note d'ailleurs qu'hier, elle roucoulait avec Dany Brilliant.
Hein oh, ah, il faut tout aimer.
Hein. Ah oui, c'est ça. Aujourd'hui, elle va nous parler de Marcelo Alvarez, comme quoi c'est le grand écart. Au programme donc de notre émission, beaucoup d'opéras de Paris, puisque nous aurons vu deux nouvelles productions de L'Enlèvement au Sérail et de La Tosca. Et puis nous irons aussi à Lyon pour faire bonne mesure avec Un vaisseau fantôme que je ne vous dis que ça. On va commencer par quoi ? Ben, La Tosca.
Bellezze insieme confonde, ma nel ritratto stai, il mio solo pensiero, ma il mio solo pensiero sei tu.
C'était Marcelo Alvarez, ici dirigé par Marcello Viotti, qui chantait cet extrait de La Tosca, le rôle de Mario Cavaradossi, bien évidemment. Tosca, que l'on peut voir depuis quelques jours à l'Opéra de Paris, côté Bastille. Il y a trois castes, Marcelo Alvarez, qu'on vient d'entendre, est du premier. Trois distributions alternantes, ainsi que les chefs d'orchestre, Daniel Oren et Evelino Pido. Tout cela pour une seule mise en scène, celle de Pierre Audi en nouvelle production. Ça faisait presque 20 ans qu'on n'avait pas eu de nouvelle Tosca à l'Opéra de Paris. Comment on est arrivé à cette Tosca-là. C'est un petit peu rocambolesque, j'ai l'impression, Richard Martin.
Ah oui, absolument. Ben, ça fait 20 ans pile, puisque c'était en 94, la dernière mise en scène par Werner Schroeter, très souvent reprise, et qui avait sérieusement besoin d'être remplacée, parce qu'elle partait en morceaux la dernière fois.
Le décor, tout ça ?
Tout. Ah oui. Elle était usée jusqu'à la corde, il n'y avait plus aucun atome de direction d'acteur. Si tant est qu'il y en a eu beaucoup la première fois, en 94, mais ça, on peut en discuter.
Mais il y avait toujours le soldat mort au début du troisième acte, dont j'ai jamais compris la pertinence.
Si c'est une pertinence symbolique, Christian.
S'il n'y avait que ça, bon. Donc, il fallait la remplacer. Néanmoins, Nicolas Joël avait prévu de la reprendre en novembre, là, c'est-à-dire dans 2 mois, avec Béatrice Uriamonzon en Tosca. Et avant, il avait prévu une reprise d'André Chénier avec Martina Serafine, Marcelo Alvarez, Ludovic Tézier, et une nouvelle production de La Valli, qui aurait été la création de La Valli de Catalogne à l'Opéra de Paris. Stéphane Isner, en arrivant, a supprimé la reprise d'André Chénier en gardant les mêmes chanteurs, a supprimé la nouvelle production de La Valli en gardant les mêmes chanteurs.
Parce qu'il ne voulait pas voir La Valli, c'est ça ? Ça ne l'intéressait pas ?
J'imagine, pas. Vous lui poserez la question. Et il a, en revanche, gardé la reprise de Tosca avec les chanteurs prévus par Nicolas Joël.
D'accord.
Et il a remplacé tout ça par une nouvelle production de Tosca signée Pierre Audi. Du coup, l'Opéra de Paris se retrouve avec 20 représentations de Tosca entre octobre et novembre.
Donc une sorte de Tosca de récupération. Elle l'a vu donc ? Qu'est-ce que vous en avez pensé, Roselyne Bachelot ?
Je l'ai vu à la première. Alors, bon, on va les prendre dans l'ordre. La mise en scène de Pierre Audi est une mise en scène qui n'est pas dérangeante, qui est finalement assez classique, surtout dans le deuxième acte. Vous pourrez emmener votre cousine Gisèle de province voir Tosca. Elle ne sera pas dérangée par une mise en scène de façon outrecuidante, modernisante. Ouais. On n'est pas en train de violer Tosca dans une vieille voiture, dans un truc de déchets.
Parce qu'on l'a vu ça déjà.
Oui, parce qu'on l'a vu ça, oui. Alors, donc très bien, une direction d'orchestre de Daniel Oren qui est un...
Qu'est-ce qu'il y a dans cette respiration ?
Très radiophonique. Oui.
Disons qu'il n'est pas enthousiasmante.
D'accord.
Voilà. Alors, venons-en à ce qui, moi, m'intéressait. C'était la prise de rôle de Ludovic Tézier pour ce Scarpia qui constitue pour le baryton une sorte de passage dans une deuxième partie de carrière. Et ce qui est intéressant dans Ludovic Tézier, c'est deux choses. C'est d'abord qu'il fait ce passage à un moment où il garde quand même le cantabile de sa voix, parce que très souvent, le baryton prend le rôle de Scarpia au moment où il perd du moelleux, où il perd de cette espèce de charme de la voix de baryton. Pas du tout dans Ludovic Tézier. Il le fait, je pense, à un très bon moment de sa carrière. Deuxième élément, Dieu sait si certains beaux esprits se sont moqués de la faible capacité dramatique de Ludovic Tézier. On disait, ah oui, il a un cantabile formidable, mais c'est un type qui joue pas. Et ben là, Ludovic Tézier apporte un démenti formel à ses détracteurs.
Ils ne sont pas si nombreux que ça en même temps. Hein.
Oui, mais enfin, ça se dit quand même dans certains milieux, il faut le reconnaître.
Et ça a le don de l'agacer.
Et ça a le don de l'agacer, et il a sans doute raison, parce que là, il a donc apporté un démenti formel. Et donc, il a choisi un Scarpia particulier. Que lui permet sa voix, d'ailleurs, ce cantabile qu'il a gardé ? Parce qu'il y a deux Scarpia, c'est-à-dire soit le politicien brutal qui abuse de son pouvoir pour posséder la femme qu'il désire, soit un Scarpia plus en quelque sorte plus pervers.
Ouais, un vicelard.
Un vrai vicelard, un gestapiste pervers. Et lui, il a choisi le rôle du gestapiste pervers, pas dénué de séduction, et il fonctionne très bien avec une voix, malgré une annonce. Christian Merlin, dans son excellente critique, a dit « Je souhaiterais avoir le médecin de Ludovic Tézier parce que vraiment, ça ne se sent pas évidemment, une Martina Serafine, ça m'a fait rigoler parce que Christian la trouve trop plébéienne et Marie Audrou la trouve trop aristocratique.
Ah, c'est bien, il y a une complémentarité dans la presse, j'aime bien ça.
Et puis un Marcelo Alvarez qui chantait Lucevan Lechtelle. Bon, il a évidemment, il a du coffre, Marcelo Alvarez, mais moi je rêverais de plus d'intériorité.
Bien, on a bien compris quand même que l'événement c'était la prise de rôle de Ludovic Tézier. Est-ce
voilà,
que vous partagez
exactement
ce point de vue, Christian Merlin?
C'est le moins qu'on puisse dire. D'autant que, effectivement, merci de me citer. Alors, antenne, Roselyne. J'avoue que parfois, je suis sceptique sur les annonces faites par les chanteurs qui sont souvent un moyen de se rassurer oui. soi-même. Parfois même, le public est un peu choqué de ça parce que j'ai déjà entendu des réflexions de spectateurs autour de moi. C'était surtout pour Roberto Alagna, ça. Disant, mais oui, évidemment, comme ça, il ne sera pas sifflé à la fin. Oui. Bon, là, honnêtement, je le comprends parce que, oui, il était pas bien et il était inquiet. En plus, à l'idée de cette prise de rôle, on l'a juste une ou deux fois senti oui. un peu tendu le soir de la première, ne libérant pas tout ce qu'il pouvait libérer. Néanmoins, c'était absolument fascinant. Moi, j'ai été scotché et renversé, et effectivement, par le double aspect vocal et incarnation. Et je fais partie de ceux qui, effectivement, lui ont reproché parfois d'être un peu raide en scène. Mais là, il y avait non seulement le jeu, mais la coloration du mot, de certaines répliques, pas les plus chantées ou les plus chantables, mais rien que, par exemple, quand il s'approche de Tosca pour savoir si elle a pris sa décision, est-ce qu'elle va lui céder ou pas. Et là, il lui dit « Eh bien !» Il lui susurre ça à l'oreille, mais il y a tout, à la fois la perversité, la concupiscence, mm-hmm. le cynisme. Dans une réplique, il fait passer tout ça. Alors moi, chapeau.
Chapeau, Richard.
Bah oui, je vais pas en rajouter sur Ludovic Tézier, mais moi quand même, je vais pas parler que de Ludovic Tézier, parce que c'est quand même... Je suis désolé, mais depuis 5 minutes, on ne parle que de lui.
Il en a marre, Richard.
Non, en plus, venant
il l'adore,
de moi,
il l'adore.
Je crois que j'ai assez dit de bien de Ludovic Tézier sur cette antenne. Il était magnifique. Non, je rappelle, il était vraiment malade. Mm-hmm. Il a annulé la deuxième représentation, qui était lundi soir, mais sauf
avec
erreur.
Avec Ghanidzé.
Voilà, il a été remplacé par Georges Ghanidzé, qui est de la deuxième distribution. En fait, il y a 4 Scarpia, hein. Jusqu'en novembre. Donc, il y a du monde à voir. Et il est revenu hier soir où j'étais. Je n'étais pas, contrairement à Roselyne et Christian, à la première, mais à la troisième hier soir. Il était à peu près remis. Il a été magnifique. Je souscris. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le spectacle, quand même.
Ah,
voilà.
La mise en scène de Pierre Audi, donc. Hein.
La mise en scène de Pierre Audi. C'est beau, c'est classique, c'est traditionnel. C'est la parfaite production de répertoire pour un théâtre comme l'Opéra National de Paris. Facile à reprendre.
Il a des compliments qui tuent, notre Richard.
Avec 3 Tosca, 3 Mario, 4 Scarpia, et vous imaginez jusqu'à la fin du mandat de Stéphane Lissner combien de fois on va la revoir, ouais. cette Tosca.
C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit plastique, qu'elle puisse
mais
que
elle
tout le monde puisse
belle,
rentrer dedans.
Elle est très bien éclairée, avec de jolis décors. C'est ce qu'on a toujours vu. N'importe quelle Tosca peut arriver demain. Elle va retrouver la robe Joséphine à taille haute. Ouais. Elle va retrouver la tiare du deuxième acte. Ouais. Elle va retrouver le bouquet de fleurs qu'on vient déposer au pied de la Madone au premier acte. Roselyne disait très justement, on peut amener la cousine Gisèle de province, elle ne verra pas une Tosca révolutionnaire. Mais je dirais même plus, elle va voir la Tosca qu'elle voyait il y a 40 ans.
Oui. Ouais.
Sauf qu'il y a 40 ans, elle se jetait quand même
du haut du toit.
C'est la
seule innovation de la mise en scène, si on peut appeler ça une innovation, parce que combien de fois on a vu les héroïnes d'opéra, notamment Traviata, au lieu de mourir, partir dans un halo de lumière. En fait, on a déjà tout vu. Mais pour une production de répertoire, et c'est là, j'entends déjà les objections de Christian, pour
une production... Je suis si prévisible que
on a eu la même conversation au mois de juin sur la Traviata, Christian.
C'est la même.
On l'aura toujours. Tu n'aimes pas les productions de répertoire. Et moi, c'est pas que j'aime ou que j'aime pas, je considère que je n'ai pas à aimer ou à ne pas aimer. Mm. Pour une production de répertoire, elle est réussie.
Vous n'avez pas aimé ou pas aimé, là, vous allez à l'opéra, là, vous me surprenez quand même, là.
Non, c'est pas ça que je veux dire, Lionel. On avait déjà eu aussi la même conversation au mois de juin.
Vous me dites, j'aime pas, mais il faut que ce soit comme ça.
Il y ait des spectacles comme ça qui amèneront les gens à voir d'autres spectacles, d'ailleurs, peut-être plus difficiles.
Des spectacles un peu traditionnels. Donc, bon, on va y revenir là-dessus, parce que vous m'avez l'air bien échauffé, là. Vous en avez parlé pendant 3 minutes, 4 minutes. On va l'entendre quand même, Ludovic Tézier. C'est pas dans Tosca. C'est ici, dans la Traviata.
Il tempo avrà fondare, via presto il te, via sorgere, che sarà allor. Pensate, per voi non avran balsamo, i più soavia vecchi, poiché dal ciel non al sogno seduttore siate il mio famiglio siete in tempo ancora, addio che ispira o giovine, addio che ispira o giovine, addio che ispira, ai tetti a un genito.
De la Traviata de Giuseppe Verdi, chantée ici par Ludovic Tézier, à ses côtés bien sûr Nathalie Dessay. C'était la Traviata d'Aix, mais nous parlons aujourd'hui de cette Tosca de l'Opéra de Paris, nouvelle production mise en scène par Pierre Audi, où Ludovic Tézier est donc le premier Scarpia dans la première distribution. Il y en a plusieurs, comme on l'aura compris. Alors je vous signale que pour la première fois dans toute l'histoire de la radio, le casque et l'enclume passe sur Twitter, dont vous pouvez nous... Incroyable, hein, Roselyne, hein, parce que vous qui tweetez tout le temps. Vous pouvez nous envoyer vos commentaires tout de suite, là, c'est hashtag casque enclume. Et ben d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a commencé, une madame de Oliveira, qui nous dit, elle répond sans doute à Richard Marté, une mise en scène pas dérangeante, l'art de dire gentiment que c'est d'un ennui mortel. Ce que Valère te dit, c'est pas faux, ça, c'est Christian Merlin qui reprend.
J'aime beaucoup madame de Oliveira. C'est quoi Twitter?
Pardon. Je vais expliquer à la sortie.
Merci. Alors, pour éviter de refaire ce débat, on le refera même. Oui. Pourquoi on ne ferait pas une émission thématique un jour, uniquement là-dessus? Mais de refaire tout le débat, je vais simplement vous raconter ma conversation d'hier soir avec Stéphane Lissner. Rencontré à l'Opéra de Paris, et qui m'a parlé lui-même de ce que lui disait Hugues Gall, lorsque Hugues Gall était directeur de l'Opéra de Paris et Stéphane Lissner directeur du Châtelet. Et Lissner critiquait les mises en scène banales de théâtre de répertoire, alors que lui faisait de l'innovation, de l'invention, de la prise de risque. Et Gall lui disait « C'est facile pour toi. Tes productions, tu les fais une fois et après elles disparaissent, tu peux prendre des risques. Moi, j'ai besoin de productions qui durent, de productions de répertoire. J'admets cette logique. Elle est réelle, elle existe. Sauf que ne m'obligez pas à aimer ça. Moi, je trouve la production de Tosca
Je le reconnais,
mais avec énormément de bonne foi. Je peux même vous faire l'argumentaire pro-théâtre de répertoire, mais à ce stade-là de mon amour de l'art lyrique, j'en ai marre. Et pardon, hein, c'est vraiment... parce que je me dis que cette Tosca, on va en prendre pour 20 ans. Et le blocos du premier acte, quand Richard dit que c'est beau, désolé, mais le bunker du premier acte, moi, j'en ai eu marre
j'ai trouvé ça très beau, comme
Roselyne. Et le campement, aussi. Le tipi du dernier acte, le campement militaire avec trois roseaux, là...
J'ai trouvé ça beau, aussi. Le problème de ce spectacle, c'est qu'il n'y a pas vraiment de direction d'acteur. C'est la Tosca qu'on a toujours vue depuis que Tosca existe.
Et je pense qu'il doit y avoir moyen, quand même, de faire du théâtre de répertoire avec un peu plus de prise de risque, un peu plus d'innovation et d'élaboration.
Mais tu fais comment ? Avec tant de Tosca, de Scarpia et de Mario qui défilent, tu fais revenir le metteur en scène à chaque fois.
C'est pour ça que les productions de répertoire perdent progressivement leur substance et que quand on va voir des productions qui ont 20 ans, on n'y voit plus de théâtre.
Il y a quand même à l'Opéra de Paris, contrairement à beaucoup de grandes maisons de théâtre, un minimum de répétition avec tous les castings. On n'est quand même pas à l'Opéra de Vienne ou à d'autres théâtres que par bonté d'âme, je ne citerai pas.
Et même parfois, quand on a un metteur en scène peu apte à la direction d'acteur, comme je trouve c'est le cas de Pierre Audi, parfois c'est même mieux lors de certaines reprises où on a travaillé avec des assistants très, très pointus, etc. Mais c'est le principe même que je trouve de plus en plus discutable.
Dire à Marcelo Alvarez, et ça c'est de la direction d'acteur, qui fasse Elouse Van Lestele avec un minimum d'intériorité.
Vous voulez aller lui dire
Il ne le fera pas
à jamais. jamais demander à n'importe quel metteur en scène, vous voulez aller voir Marcelo Alvarez? Il était à mourir de rire. Il tend le bras, voilà. Il replie les mains sur la poitrine, la tête en avant,
et il ouvre les bras quand
c'est
il a
une
sa note
caricature du ténor des années 30.
Exactement.
Il chante tellement bien.
Bah, oui. Pas si bien que ça à la première, en tout
hier
cas.
Hier soir, c'était magnifique.
Oui,
absolument magnifique.
Est-ce que la question de ces effets mise en scène, on va dire entre guillemets, de répertoire, c'est pas justement que c'est fait pour avoir dans un lieu comme l'Opéra de Paris une distribution de vraiment tout premier plan, c'est-à-dire qu'on accepte une mise en scène un peu, voilà, un peu banale qui nous dit pas grand-chose.
C'est vrai.
Si on a un trio de têtes dans la Tosca, absolument exceptionnel.
On n'a pas parlé de Martina Serafine qui campe une Tosca très charnue.
Opulente.
Vous avez dit opulente, Christian. Très charnue. Moi, je ne l'ai pas trouvée, contrairement à Christian, je ne l'ai pas trouvée plébéienne parce que justement, ce côté plébéien, elle est plébéienne, vous avez semblé le dire comme une critique, mais finalement, une cantatrice, ce n'est pas une aristocrate. Floria Tosca,
malgré... Mais elle n'est pas aristocrate.
Elle n'est pas du tout aristocrate, et c'est bien...
Elle ne vient pas d'une famille aristocrate.
Exactement. Et lui reprocher un côté plébéien, je trouvais que c'était injuste de la part de Christian.
C'était plus un constat qu'autre chose. Je trouve que c'est une Tosca relativement banale, même si elle chante. Elle fait le boulot, voilà. Elle fait le job. Je trouve qu'on ne va pas au-delà. Il n'y a pas cette étincelle qu'on attend, en plus d'une première, quoi.
C'est une des meilleures Tosca actuelles. Tu prends qui aujourd'hui? Tu vas chercher Carita Matilla pour qu'elle chante faux tous les soirs et de toute façon, elle ne veut plus le faire. Non, Martina Serafine hier soir a très bien chanté. C'est la Tosca standard qu'on voit dans les années 70. Voilà, la Tosca standard.
Excusez-moi, mais avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Parce que moi, j'y vais plus, si c'est ça l'opéra.
La Tosca standard, j'y vais
même. Non, mais la cousine Gisèle va être ravie.
Tu vois et tu entends Tosca, Christian. Quand tu n'as jamais vu Tosca, moi, je ne sais plus qui était ma première Tosca, peut-être Oriana Santonioni ou quelqu'un comme ça. Voilà, j'étais content de la voir. Aujourd'hui, j'ai peut-être envie, moi aussi, comme toi, d'autre chose. Mais ça n'a pas à entrer en ligne de compte.
On va réécouter encore une fois Marcelo Alvarez, si vous le voulez bien.
Je sais pas, Estelle,
il a quand même bien chanté, quand même.
Il a bien chanté.
Ah bon, très bien, Jean-Marc.
Lezzava la terra, stride all'uscio dell'orlo, e un passo sfiorava l'arena, entrava ella fragrante. Thank you.
La lueur des étoiles dans la voix de Marcello Alvarez, extrait de Tosca de Puccini, à voir donc jusqu'au 28 novembre à l'Opéra de Paris pour fermer le banc.
Et pour Ludovic Thézier jusqu'au 22.
Pour Ludovic Thézier, on a bien compris.
Et je ferme le banc entre Richard et Christian pour rappeler que 87% des spectateurs à l'Opéra de Paris ne vont à l'Opéra qu'une fois par an. Donc, il faut aussi des spectacles qui plaisent aux 87%. Nous, on fait partie des 13%. Tant pis, Christian, allez, paf, ça, c'est pour vous.
C'est un opéra populaire, Bastille, on va le rappeler, avec ses 2700 voilà. places. Hein, et donc, cette production, si je comprends bien, est faite aussi pour cela. Juste un mot sur les distributions à venir, Richard. Qu'est-ce qu'on doit aller voir ou pas voir dans ces autres distributions de la Tosca jusqu'à la fin novembre ?
Essayez d'y aller avec la première distribution, qui est globalement la meilleure. Allez voir Béatrice Uria Monzón en Tosca. Je l'avais raté lors de sa prise de rôle à Avignon. Vous savez, c'est une mezzo qui fait Tosca. Oui. Donc, ça m'intéresse assez et j'y retournerai. Évitez Oksana Dika, je suis désolé. Mais Oksana Nadika a été pitoyable en Aïda l'an dernier, on l'a assez dit sur les ondes dans notre émission. Non, vraiment, m'en l'avoir en Tosca, ça, j'aurais pas le courage.
Mais Béatrice Uria Monzón, on peut y aller. Tout cela est donc à la Bastille, nouvelle production signée Pierre Audi.
France Musique.
Il est midi 26, vous écoutez Le Casque et l'Enclume. Votre séance critique se poursuit toujours à Paris, mais cette fois-ci côté Garnier, puisqu'il y avait deux premières depuis quelques jours qui se succédaient l'une à l'autre. C'était cette fois pour L'Enlèvement au Sérail, direction Philippe Jordan, mise en scène Zabou Breitman, qu'on a vu bien évidemment, Christian, à la télévision quand on était petit, mais surtout au cinéma, la réalisatrice aussi, oui, et puis Récré à deux. Et puis au théâtre, bien sûr, où elle a été à la fois actrice et metteur en scène. C'est ce qui a entraîné qu'on la fasse venir à l'Opéra de Paris pour cet Enlèvement au Sérail, à la fois nouvelle production, dans les rôles principaux. Je ne vais pas nommer tout le monde, ça va être fait au fur et à mesure. On va commencer justement sur la production et la mise en scène de Zabou Breitman. Christian.
Il faut d'abord que je retrouve un peu mes esprits, parce que vous avez vu comment elle m'a rabattu mon caquet.
La Roselyne.
Roselyne, là.
Faut pas lui dire n'importe quoi.
Ah oui, non, ça rigole pas. Alors, d'abord, une chose, avant même de parler du spectacle, c'est la joie immense de retrouver l'Enlèvement au Sérail à Paris, dans une production scénique. L'œuvre est absente du répertoire de l'Opéra de Paris depuis 1984. Ça fait 30 ans. C'était la production Streller à l'époque. Ouais. Et c'est un opéra absolument magnifique. Je ne me lasserai jamais de le dire. Ça n'est pas un petit Mozart. Ça n'est pas du Mozart léger, comme on le dit souvent. C'est une œuvre d'une très grande profondeur et d'une qualité musicale unique. Donc, il fallait le faire. Bravo. La mise en scène de Zabou Breitman... Alors, non, je ne vais pas me relancer dans le... Du tout,
là,
dans
le
débat.
On peut refaire la même chose. Mais
je vais vous dire, elle a des qualités. Ne comptez pas sur moi pour partir direct sur l'assassinat en règle. Elle a beaucoup de charme. Elle joue le charme exotique sans prétention et la légèreté. On peut attendre autre chose. Le travail théâtral n'est pas d'une réflexion dramaturgique saillante ou tangible, je dirais, visible à première vue. On joue le registre de la comédie tout en restant de bon goût. C'est pour moi un petit peu trop dans la légèreté, parce qu'on ne m'ôtera pas de l'idée que l'Enlèvement, comme la Flûte enchantée, les opéras allemands de Mozart, bien qu'ils s'appellent Singspiel, ce qui est plutôt l'équivalent un peu d'une opérette, ont une réelle profondeur. Là, on est vraiment dans la philosophie des Lumières, on est dans un sujet qui est fort. Ça, on ne l'a pas vu. La direction d'acteur est irrégulière. Lorsqu'il s'agit des personnages principaux, elle est assez démissionnaire. Je n'ai pas senti beaucoup d'émotion et beaucoup de profondeur dans les chanteurs principaux. En revanche, elle s'intéresse beaucoup à toutes sortes d'actions parallèles et à des figurants qui, eux, sont excellents, ou à des danseurs. Sans parler du rôle du Pacha Selim, qui est vraiment excellemment tenu par un acteur autrichien dont je suis en train d'oublier le nom, évidemment, comme je n'ai pas repris ma fiche.
Vous le retrouvez, Jürgen Maurer.
Exact. Voilà, qui est absolument remarquable. Pour moi, le charme essentiel, ce sont les décors de Jean-Marc Stélé, qui ont une sorte de magie, mais que j'avais déjà trouvé dans la Flûte enchantée qu'il avait faite pour Benno Besson. C'est un immense décorateur qui, en plus, est mort il n'y a pas longtemps. C'est un peu son travail posthume. Et là, il y a cette poésie naïve et enfantine dans les décors qui est magnifique. J'aurais attendu quand même un peu plus d'élaboration dans la mise en scène.
Ça fait comme pas mal de réserves, tout ça, hein, Roselyne.
Alors, une mise en scène très soignée, qui ne va pas déranger, qui s'adresse aux 87%. On est dans une turquerie qu'on pourra réutiliser telle qu'elle pour l'italienne à Alger, le turc en Italie, et toutes les choses du XVIIIe siècle.
C'est-à-dire qu'en termes de rentabilité, là, on fait fort.
En termes de rentabilité, ça, on peut mettre les ânes galantes là-dedans, il n'y a absolument aucun problème.
Vous vous rendez compte si c'est moi qui avais dit ça, hein.
Non, mais c'est bien, c'est soigné. C'est de l'orientalisme pur et dur. Il n'y a aucune modernité. Et bien entendu, les décors sont tout à fait soignés, bien. C'est du beau boulot. Alors, on peut quand même parler un peu des chanteurs.
Allez-y.
Des chanteurs, pour paraphraser, on ne peut pas... C'est le premier film qui a fait le succès de Zabou Breitman. On ne peut pas se souvenir que des belles choses.
Oui.
Alors, là, je vais mettre un bémol, c'est que j'avais la chance ou la malchance d'être dans la loge d'honneur. Et c'est le dernier endroit à l'Opéra Garnier pour écouter un opéra, parce que ça fait une espèce de boîte dans laquelle la musique ne passe pas.
Mais oui, mais vous nous snobez, vous
ben
préférez
voilà,
aller
j'avais
avec
laissé
les
le petit peuple
ben
par terre, ben voilà. Christian était là. Alors, on a effectivement un Pedrillo qui était quand même très très faible, très très faible.
Était joué par Paul Schweinester.
Voilà, on ne l'entendait pas. Il est autrichien, je crois. On ne l'entendait pas du tout. Les deux femmes, Erin Morley et Anna Prohaska, m'ont un peu déçu,
d'accord,
je dois le dire.
Anna Prohaska est une très belle chanteuse, en même temps.
Oui,
ah bon,
mais...
Elle était décevante.
Je dirais plutôt irrégulière, disons, surtout, parce qu'elle est capable vraiment de notes magnifiques.
Ah ben, elle avait des suraigus, voilà. Surtout dans son premier air, qui était
mais
très
qui
bien.
Sont un peu noyés dans un halo, parfois indistinct, c'est très
médium,
irrégulier.
Hein. Elle n'a pas de médium. Donc c'était quand même assez gênant. Mais tout ça compose un spectacle de bonne tenue, agréable, on ne s'ennuie à aucun moment. C'est quand même une partition extrêmement piégeuse que celle de cet enlèvement au sérail, parce que évidemment on voit là dans la joie, la gaieté, en fait c'est affreusement dur à chanter, des arabesques, des vocalises. On a l'impression d'ailleurs que Mozart a fait exprès de mettre des pièges pour les chanteurs à tous les moments.
Il s'est amusé.
Et il s'est vraiment amusé. Je sais pas, il avait besoin de se changer après Idoménée. Et là, il surmonte quand même ces extrêmes difficultés pour nous donner un spectacle de bonne tenue. Et puis, il y a Philippe Jordan, la baguette, qui quand même soutient ça et avec beaucoup de professionnalisme.
Alors, on va y revenir, si vous voulez bien, mais on va entendre Anna Prohaska, parce que vous m'étonnez un petit peu là dans ce que vous me dites là. Son dernier disque, je ne sais même pas si on l'avait évoqué dans le casque, mais il était tout à fait remarquable quand même. Il était question de guerre là-dedans, derrière les lignes, s'appelait ce disque-là. Elle réunissait plein de choses, actuelles de Beethoven, par exemple.
Die Trommel gerührt, das Pfeifchen geschmiert, mein Liebster gewaffnet, dem Haufen befiehlt, die Lanze hochführt, die Leute regiert. Wie klopft mir das Herz, wie wallt mir das Blut, wo hört ich ein Wämslein und Hosen und Hut, wo hört ich ein Wämslein und Hosen und Hut. Thank you. Hosen und Hut. O, hält dich ein Wämslein und Hosen und Hut.
Accompagné par Eric Schneider dans cette tambour battant de Ludwig van Beethoven. Oui, surprenante musique. C'était ici Anna Prohaska qu'on entendait sur son dernier disque paru chez Deutsche Grammophon. On la retrouve à l'Opéra de Paris dans le rôle de Blonde et de l'Enlèvement au Sérail. Il n'a pas parlé de la distribution justement de cette nouvelle production de l'Enlèvement. Christian Merlin.
D'autant qu'il y avait quand même des qualités parce que Bernard Richter par exemple est un très beau Belmont avec cette voix à la fois très claire et en même temps puissante qu'il caractérise. Son seul moment de faiblesse, c'est au dernier acte, parce qu'il a voulu tout faire. Il a fait le fameux air « Ich baue ganz » que certains ténors coupent. Et on comprend pourquoi il le coupe. Parce que là...
Il est très beau. Hein.
En plus, je suis moins bien placé pour le dire, mais il a plafonné sur cet air, soyons honnêtes. Mais jusque-là, ça avait été un très beau Belmont, avec juste le bon équilibre entre le côté héroïque et le vrai côté mozartien. J'avoue que je connais mal la chanteuse Erin Morley, que j'ai peu eu l'occasion d'entendre en live. J'ai toujours entendu plutôt du bien d'elle et j'avoue que ça a été une bonne surprise. Le début était un peu timide et je me disais, oulala, ça va être ça, la Constance qui a un rôle si rayonnant et qui a été illustrée par, ne serait-ce que par une Edita Gruberova. Mais où il faut une chanteuse qui soit justement pas seulement une virtuose, on n'attend pas juste une reine de la nuit, une chanteuse à roucoulade. Il y a aussi un aspect extrêmement noble et profond dans ce rôle et avec des airs qui font appel non seulement au vocalisme mais aussi au legato, à l'expressivité. Et Erin Morley, je trouvais, avait un bon équilibre entre tout cela. Elle a l'agilité vocale, au risque même de certaines acidités, mais aussi une très belle musicalité. Donc tout ça faisait une distribution tout à fait correcte, mais évidemment, je vais un peu faire mon Richard pour une fois, parce que souvent il nous dit, oui, il faut bien accepter l'idée que ce ne sont pas les chanteurs qu'on a eus à telle ou telle époque. Si je prends le Los Mines de Lars Volt, que j'ai trouvé très bien, mais évidemment, il faut oublier Kurt Moll, il faut oublier Martti Talvela, il faut oublier Matti Salminen, etc. C'est un Los Mines plus, j'allais presque dire, bariton-basse.
Il y a un peu de problème quand tu descends.
Bariton-basse, c'est pas une basse profonde. C'est pas une basse profonde. Voilà. Il n'y a rien à faire, donc j'ai l'impression que, en tout cas dans le répertoire allemand, on ne trouve plus de basse noire qui descendent à la cave. Non. Cela dit, c'est un très bon musicien et un très bon acteur, et toutes les parties de ses airs qui ne recourent pas au registre de l'extrême grave, il est très bien.
Il levait les yeux au ciel d'un air
consterné.
T'as pas vu le spectacle,
mais... Non, mais c'est un problème chronique, Lionel. On l'a dit il y a quoi, un mois, quand on a parlé de la flûte d'Aix. Oui. Christophe Fischesser, qui faisait Zarastro à Aix, était un chanteur expressif, humain, tout ce qu'on veut, mais c'est pas un Zarastro. Il lui manque le gras. Les Kurt Moll faisait l'enlèvement au Sérail il y a 40 ans, bientôt 40 ans, l'Opéra de Paris.
De 1976,
avec Christiane Edapierre. Qui était une vraie torche en Constance.
Ah oui.
Vous étiez complètement scotché.
On ne parlait que de ça hier
à
l'Opéra de Paris. Ah bon, voilà. Tout le monde disait, oui, c'est bien, mais alors, vous rappelez de Freller, de Kurt Moll, de Christian Edapierre.
Je vous ai interrompu tout à l'heure, Roselyne, à propos du directeur musical de cette production, Philippe Jordan. Si bien que ça, dans Mozart, vraiment?
Ah, écoute. Alors, il a vraiment, Philippe Jordan, c'est pas là qu'il est le mieux. Voilà. Mais il a vraiment joué le jeu et il soutient ses chanteurs dans une direction justement qui est un peu faible ou dispersée. S'il n'avait pas été là, C'est lui le directeur d'acteurs dans cette affaire-là.
D'accord. Ah oui, donc il compense en quelque sorte pour vous la faiblesse de... Voilà. Une relative faiblesse de mise en scène.
C'est vrai qu'il donne une unité de ton à la soirée. L'orchestre joue très bien. Hors micro, Roselyne rappelait un épisode de la mise en scène où, lors de l'air Martin à la Harten, qui est l'air le plus virtuose de Constance, il y a une partie concertante avec quatre instruments, violon, violoncelle, flûte et hautbois, qui ont une partie littéralement soliste. On les a fait monter sur scène, ce qui, au départ, sur le papier, était plutôt une bonne idée, et finalement se révèle un peu contre-productif parce que ça disperse l'attention des personnages principaux. En revanche, ils ont joué comme des dieux, Maxime Tolence, Cyril Lacroute, magnifique. Philippe Giorgi, Catherine Quentin, absolument magnifique. Mmh. L'orchestre jouait très bien, mais un Mozart, il faut l'accepter, c'est un Mozart d'avant les baroqueux. On joue le jeu d'un effectif assez large, plutôt symphonique, mais... à mon goût, pas lourd. C'est ça le risque dans ce cas-là.
Mais c'est une vraie vision, parce qu'on comprend très bien qu'on puisse aller aujourd'hui vers ces répertoires-là, que les musiciens de grands répertoires se réapproprient ce sur quoi les baroqueux ont mis la main ces dernières années. Mais est-ce qu'il y a vraiment une vraie vision derrière?
Là, je n'irai pas jusque-là. Philippe Jordan, il y a des répertoires où il nous a montré qu'il avait une vision. Dans Wagner, c'est absolument le cas. Là, il a quelque chose à montrer.
Dans La Force du Destin aussi.
Mais il en a plus dans Verdi que dans Mozart.
Oui. Là, c'est plus un Mozart classique, de bonne facture, de bon aloi, mais qui ne révolutionne pas notre écoute.
L'enlèvement au Serail de Mozart, c'est donc à voir, encore une fois, avec deux distributions. Jusqu'au 15 février, il y aura plusieurs volants, si l'on peut dire. C'est à l'Opéra de Paris, au Palais Garnier, la direction musicale Philippe Jordan, la mise en scène de Zabou Breitman. Juste un mot sur un auditeur qui nous tweet, je n'irai pas voir un spectacle avec une Tosca Scandard dans une mise en scène banale. J'ai l'impression que c'est un peu le problème de ce qu'on dit là pour l'enlèvement au Serail.
Nos auditeurs, ce sont les 13%.
Ouais, voilà. Ah oui, c'est ça. Eux aussi. Mais il n'y a que des 13% parmi ceux qu'on connaît en même temps. C'est quand même très curieux de voir ces deux spectacles, on va dire un peu de répertoire les uns et les autres.
Faut dire à notre auditeur.
Bah, j'étais curieux pour Stéphane Lissner qui arrive, dont on attendait évidemment qu'il fasse Monts et Merveilles.
Ah oui, mais c'est pas sa saison.
Ah oui, mais c'est pas sa saison.
La Tosca, si. Ah, la Tosca, c'est lui qui l'a commandé.
Tosca, oui.
L'enlèvement au Serail, non. C'est une commande de Nicolas Jouet. Mais il va faire, Stéphane Lissner, ce qu'ont fait tous les directeurs de l'opéra. Il va essayer d'équilibrer les prises de risque. Et puis des productions standards, les prises de risques sur des opéras qu'on reprend moins souvent, moins facilement, parce qu'on les remplit moins facilement, puis du standard sur Tosca.
Quand il va commencer avec Moïse Aaron, il prendra des risques.
Réaliste d'un côté, et puis plus risqué de l'autre, on est bien obligé de le faire aujourd'hui. Allez, on a parlé de Bernard Richter. Le voici dans Dardanus, c'est ce qu'il chante magnifiquement.
Lord,
Bernard Richter chantait ici cet extrait de Dardanus de Jean-Philippe Rameau avec l'ensemble Pygmalion et Raphaël Pichon. C'est beau quand même, hein, ce qu'on vient d'entendre là. Hein. Bernard Richter qui est donc en Belmonte de cet enlèvement au sérail. Nouvelle production au Palais Garnier.
France Musique.
Midi 47, le casque et l'enclume est parisien, parisianiste, élitiste, tout ce qu'on veut aujourd'hui, on est les 13% machin. Non ! Nous allons descendre en province, si j'ose dire, oui, monter, je ne sais pas comment on dit, on ne sait pas quoi dire dans ces cas-là, parce que fatalement, on fait toujours taper dessus à un moment ou à un autre. Le vaisseau fantôme à l'Opéra de Lyon, c'est de Richard Wagner, bien sûr. C'est présenté déjà depuis 3 représentations depuis samedi dernier, mais il en reste 5 dans une mise en scène très attendue. C'est pour ça que Christian et Richard y sont allés, mais très attendue parce que c'est le célèbre collectif La Foura d'Elsbaos qui mettait en scène ce vaisseau qu'on attend plus, bien sûr, pour cette mise en scène, justement, que pour la distribution. A-t-on raison ou a-t-on tort, il va nous le dire, Richard.
Ben, c'est encore, il y a deux manières d'envisager la production.
Ah,
on revient toujours. Voilà, il y a deux manières d'envisager la production. Vous voyez ce vaisseau fantôme, on ne vous a pas dit que c'était la Foura d'Elsbaos. Vous voyez ce vaisseau fantôme, vous voyez un vaisseau fantôme plutôt réussi visuellement, très classique quand même, somme toute, avec un beau décor, de magnifiques projections. C'est toujours Franck Aléou qui est absolument extraordinaire. C'est le vidéaste, puisque je trouve ce mot horrible, mais c'est celui qu'il faut utiliser aujourd'hui. C'est le vidéaste de la Foura d'Elsbaos. Attitré. Et il fait ça divinement. Il y a notamment à la fin une scène d'engloutissement du Hollandais dans les flots qui est absolument mais impressionnante de beauté visuelle. Vous vous dites, voilà la première version. Deuxième version, on vous annonce la Foura d'Elsbaos. Vous avez dans le souvenir l'invraisemblable, l'incroyable damnation de feu du Festival de Salzbourg, le sublime ring qui avait été fait à Valence et à Florence, le grand macabre de la Monnaie de Bruxelles et de Barcelone, le Magoni du Théâtre Royal de Madrid.
C'est-à-dire des trucs énormes, quoi.
Énormes, que vous preniez comme un coup de poing. Ouais. Bah, là, quand même, excusez-moi, vous avez avez une direction d'acteur paresseuse. Alex Ollier, quand même, je trouve que ça se gâte de plus en plus. C'était mieux. Ils avaient fait Tristan hein, aussi. À Lyon, c'était mieux que ça. C'était déjà une baisse de niveau par rapport au spectacle dont je viens de parler. Mais il y avait quand même quelque chose d'intéressant. Là, c'est quand même le vaisseau qu'on a vu. Ben, on revient à Tosca. Hein. C'est le vaisseau que j'ai toujours vu. Quoi. Une direction d'acteur classique, voire absente. Parce que quand même, le duo d'amour entre l'Hollandais et Zinta, avec l'un et l'autre, de part et d'autre, se regardant comme deux bûches. Enfin, excusez-moi, ça c'est ce qu'on voyait dans les années 50. Quand on a Alex Ollier et la Foura d'Elsbaos, on attend autre chose. Voilà, c'est toujours les deux versions de la même appréciation.
La Foura qui nous fait un spectacle années 50, j'ai du mal à y croire quand même, Christian.
Ah non, c'est pas tout à fait années 50.
C'est pas ce que j'ai dit.
Voilà,
non,
parce qu'il faut quand même rappeler qu'on a affaire à un cargo ou à un pétrolier que l'on passe l'opéra à démonter parce qu'on est sur un chantier naval qui est en fait un cimetière d'épaves. Et effectivement,
par rapport au vaisseau fantôme,
c'est pas bête du tout. Et sur la question du rapport de l'homme à la nature, etc., là où je suis obligé de donner raison à Richard, mais pour moi, ça fait un moment que ça dure. C'est que la Foura d'Elsbaos, que j'adore et que j'admire, ce sont plus des gens de spectacle, je trouve, que de théâtre. Alors, ils ont ce sens du spectacle qui, moi, m'a scotché. Je trouve Richard un peu sévère. J'ai été bluffé.
T'as vu les directions d'acteurs,
mais non,
vraiment
mais je parle original. De spectacle, et je dis bien pas de théâtre. Donc, oui, j'ai été déçu par la direction d'acteurs à l'évidence. Parce qu'on ne s'est pas concentré sur les personnages, je suis d'accord. Et c'est pour ça, effectivement, qu'on atteint la limite du système. C'est que quand vous avez vos manutentionnaires et vos ouvriers qui... d'ailleurs, encadrés par des miliciens à Kalachnikov sont assez inquiétants, qui démontent l'épave, on sent bien que c'est à la fois spectaculaire, mais en même temps un peu cache-misère, parce que dans le même temps, on ne s'est pas concentré sur l'intériorité des personnages. Je suis d'accord avec ça. Cela dit, quelles images fascinantes. Moi, j'avoue que j'étais comme un enfant. J'avais un regard d'enfant là-dessus, comme quoi on est capable de l'avoir encore.
Mais comme quoi avec comme moi avec Tosca.
Voilà.
Chacun, essaie de le rattraper.
Chacun son regard d'enfant. Et là, c'est un magnifique spectacle. C'est vrai que ça manque un peu de profondeur théâtrale.
Ouais, beaucoup.
Mais ça fait un moment que c'est le point faible, c'est le talon d'Achille, je trouve, de la Foura.
C'est-à-dire qu'il faut un très beau dispositif et
après,
pour le faire vivre.
Je l'avais déjà dit sur France Musique quand j'étais rentré de Mahagoni. Gérard Mortier, pour Mahagoni, avait exigé que Alex Ollier et Carlos Padrissa soient présents. Mortier m'avait expliqué, l'un sans l'autre, c'est pas la peine.
D'accord.
Parce qu'ils se complètent, il va toujours vous manquer quelque chose. Il avait exigé qu'ils soient là. Sauf erreur, depuis, ils n'ont plus jamais travaillé ensemble à l'opéra.
Donc si je comprends bien, un très beau vaisseau fantôme tout de même à voir pour le dispositif. Quand même, alors justement, je prends un tweet d'un auditeur. La notion de jeu devient de plus en plus importante. On veut des chanteurs-acteurs. Est-ce qu'on a eu des chanteurs-acteurs?
Dans une certaine mesure.
Évidemment.
Là, pour les autres spectacles. Ils n'étaient pas assez dirigés.
Voilà, ils n'étaient pas dirigés, mais eux auraient pu l'être.
Je crois. Parce que par exemple, le Hollandais de Simon Neill, dont on a fait un mort-vivant, comme d'ailleurs l'ensemble de l'équipage, c'est très étonnant quand on voit ces êtres, ces zombies qui grouillent avec des éclairages fascinants, faut le dire ça aussi, dans le vaisseau fantôme. Et le Hollandais sort comme véritablement comme un mort-vivant. Hein. On est chez
avec les qui tombent et tout ça.
Pas tout à fait.
Dans Walking Dead.
Pour après, oui,
c'est ça. Romero.
Il y a une projection incroyable. C'est les Spider-Man blancs. Qui tourbillonne comme en nuée sur le fond de scène. Ça, c'est absolument extraordinaire.
Il est où, Wagner, là?
Oui, c'est vrai. Ouais. Bah oui, mais ça a l'air beau quand même.
Mais
hein.
Écoutez, ce sont des fantômes. Alors,
c'est du visuel.
Les fantômes,
c'est de l'image.
Moi, il faut qu'ils inquiètent, il faut qu'ils fassent peur. Et souvent, dans les mises en scène, les membres de l'équipage fantôme ne me font pas peur. Là, ils étaient vraiment effrayants. Lui aurait pu jouer Magdalena Anna Hoffman, qui fait Zenta. Et quelqu'un qui a une incandescence, qui est vraiment brûlante. On n'a pas assez exploité cette veine-là,
absolument.
Je suis d'accord.
On y va pour le chant quand même, un petit peu. Est-ce que ce fantôme, vraiment en deux mots, Richard, ou vraiment pour le... Non, pourquoi pas, pour le spectacle,
correct.
C'est une chose en soi.
Correct, sans plus. Mais attention, bémol, je réserve, non, pas une réserve, une relativisation. Il ne faut pas oublier une chose, ils étaient quasiment tous en prise de rôle.
D'accord.
Donc on ne peut pas forcément leur en vouloir de pas... Par exemple, le Hollandais, on ne peut pas lui en vouloir d'avoir intériorisé. C'était la première Zenta, je pense qu'elle fera mieux plus tard. Mais c'était correct. Et là, sur un Hollandais trop clair pour moi. Il manquait vraiment de grave.
Bon, c'est à voir quand même, j'ai l'impression, ce spectacle. Moi, vous me donnez envie. Même
si
vocalement, je ne sais pas trop. C'est jusqu'au 26 octobre à l'Opéra de Lyon. La version d'Antal Dorati, c'était le final du Vaisseau fantôme de Wagner à voir à l'Opéra de Lyon. On n'a même pas dit un mot, Christian de Kazushi Ono, qui dirige cette production. Juste un mot, 10 secondes.
Bonne direction, irrégulière, pas constamment tendue comme on l'attendrait, mais avec de très beaux passages.
Il était mieux dans Parsifal à Lyon ou dans Tristan à Bruxelles. C'est des œuvres de Wagner. Là, c'est un peu un Wagner de jeunesse qui lui convient moins bien.
Merci en tout cas à tous les trois, Richard Marté, Christian Merlin et bien sûr Roselyne Bachelot. On vous laisse partir pour la suite de vos aventures des huitièmes, parce qu'il y a encore plein d'invités sublimes qui nous attendent là-bas aussi. Cette émission a été préparée par Françoise Monteil, réalisée par Antoine Courtin, avec aujourd'hui Cécile Gissot et Thomas Bizot. On vous donne rendez-vous lundi pour le magazine. Mon invité sera Rolando Villazone. Et la semaine prochaine, notez que mercredi, nous ne serons pas au studio 107 de la Maison de Radio France pour notre live, mais en goguette à Saint-Lô pour le festival Polyfolia. Si vous êtes dans le coin, venez nous retrouver, bien sûr.